Bienvenue et merci d'être à l'écoute de La Victoire à tout prix. Dans ce podcast, Mylène Dufeuille vous apporte chaque semaine un nouvel épisode unique et vibrant. La Victoire à tout prix, nous ne combattons pas pour la victoire, mais à partir de la victoire que Christ nous a donnée. Et saisissez-vous de cette réalité et soyez encouragés. La Victoire à tout prix est une production des studios RFE.
Bonjour et bienvenue sur la radio RFE, je suis Mylène et je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast. Merci d'écouter La Victoire à tout prix. En cette belle période de Noël, j'ai décidé de vous parler des quatre symboles de Noël. Ce sont des symboles que vous connaissez, mais c'est bien de nous les rappeler. J'aimerais dire premièrement que nous savons tous et toutes que Jésus n'est pas né le 24 décembre. Cette fête, la fête de Noël, a été établie dans le calendrier païen, donc malheureusement, et non pas selon le calendrier juif. Une des choses que nous pouvons dire, c'est que lorsque les anges ont visité les bergers qui sortaient les brebis en soirée, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Israël, en hiver, les brebis ne sortent pas en soirée. Donc, on peut supposer que cette belle période de la naissance de Jésus-Christ était au printemps et non pas en hiver. Mais bon, nous les chrétiens, nous fêtons surtout la venue d'un sauveur, la venue d'un seigneur. Nous ne mettons pas Noël en forme d'idolâtrie, mais nous réalisons que à un moment dans l'année, Dieu nous a fait grâce et nous a donné un sauveur. Mes amis, nous ne tournons pas autour de Noël comme si Noël était notre idole, mais pour nous c'est le symbole de la venue du Fils de Dieu. C'est le symbole de la venue de celui qui est venu nous délivrer de l'oppression. Une chose qu'il nous faut savoir, mes amis, c'est qu'à l'époque de la naissance de Jésus, Hérode était roi dans cette contrée où est-ce que Jésus est né. Il y avait aussi politiquement César et ces deux personnes opprimaient le peuple. César pensait emmener la paix, il pensait avoir emmené une paix politique et Hérode était un roi dans la sécurité, il était jaloux. Et malheureusement, les Romains opprimaient sans arrêt le peuple de Dieu par toute espèce d'oppression, des oppressions abusives. Et donc le peuple de Dieu, selon la prophétie qui avait été dite dans la parole de Dieu, attendait un sauveur. Jésus-Christ était attendu et Jésus est vraiment l'enfant de la prophétie. Il est venu nous amener la paix dans cette période qui est tellement importante. C'est vrai que Noël est une belle période de famille durant laquelle on va donner des cadeaux, on va pardonner, on va être en famille. Ça, c'est pour certaines personnes. Mais pour d'autres, Noël est un temps difficile. C'est un temps de mauvais souvenirs et certains ne fêtent pas Noël parce que lorsqu'ils étaient enfants, ils ont vécu des choses difficiles à cette période. Donc Noël n'a pas de sens. C'est vrai que moi, personnellement, Noël a toujours été une très jolie période, même étant enfant. Il y avait des cadeaux, un bon repas et beaucoup de réjouissances. Et c'est ce qui est véritablement dans le cœur de la majorité des gens. Mais vous savez que dans la Bible, le peuple juif n'a pas vécu Noël comme nous l'avons vécu. Le peuple juif était concentré sur le Sauveur qui avait été promis dans l'Ancien Testament, dans les prophéties. Et mes amis, il nous faut voir Noël de cette façon. Il nous faut nous dire que à ce moment-là, dans cette période, le symbole de Noël, c'est la venue du Sauveur. Parce que nous aussi, mes amis, nous avions un maître qui est dur, c'est-à-dire Satan. Et Satan oppresse les gens. Satan déprime les gens. La Bible dit qu'il est venu égorger, tuer et détruire. Mais Jésus est venu donner la vie, mais la vie en abondance. Vous savez, mes amis, la vraie paix, elle commence avec Dieu. Dans ce monde languissant, dans ce monde où il y a tellement de malheurs, tellement de misères, tellement de pauvreté, tellement de gens malheureux, opprimés, beaucoup recherchent la paix. Le monde recherche la paix. Certains recherchent la paix au travers de la drogue, d'autres au travers des distractions, d'autres au travers de l'alcool. Mais mes amis, Dieu seul est le Dieu de la paix. Et je crois, mes amis, qu'à cette période de Noël, s'il y a quelque chose que nous devrions avoir dans nos cœurs, mes amis, c'est la paix. Et je crois que sans Jésus dans notre cœur, nous ne connaîtrons pas la vraie paix. Vous savez que Jésus, lorsqu'il est né, Marie et Joseph sont allés dans une étable parce qu'il n'y avait pas de place et on a entendu et réentendu ce message de faire une place à Jésus dans son cœur. Non seulement, je sais que là je m'adresse à des gens qui connaissent Christ, mais parfois on a la confession confession, on se dit chrétien, on est chrétien de confession. Mais nous ne laissons pas de place au Seigneur, nous ne laissons pas de place, en tout cas pas assez de place à sa parole, pas assez de place à son esprit, pas assez de place à sa présence, pas assez de place à ce qu'il nous demande de faire. Nous renvoyons le Seigneur indirectement, bien entendu, nous ne lui disons pas « Seigneur, nous n'avons pas de place ». Mais parfois notre vie quotidienne, ce que nous faisons, notre manque de prière, notre manque de pensée au Seigneur, lui montre qu'il n'y a pas de place pour lui. Donc nous devons, c'est important de prendre la décision alors que cette année se termine et qu'une autre va commencer. C'est peut-être de lui laisser plus de place dans la réflexion de nos cœurs, plus de place dans la lecture de sa parole, dans nos pensées, dans nos attentions, dans nos prières, plus de place pour le Seigneur. Parce que vous savez que lorsque Jésus est dans notre vie, c'est le meilleur que nous recevons. Et donc là, maintenant, je vais vous parler des quatre symboles de Noël. Je ne vais rien vous enseigner de nouveau, je veux surtout vous parler de ces quatre symboles et surtout vous donner des versets bibliques qui vont illustrer ces symboles et qui sont importants. Donc Noël, c'est bien plus que des cadeaux, que le sapin, courir dans les magasins, la dinde, les lumières, etc. Pour nous qui croyons en Jésus-Christ, Noël, c'est aussi quatre symboles qui sont des symboles importants, des bannières que l'humanité a besoin, des bannières qui viennent de Dieu, des bannières que seul Dieu nous donne. Vous savez, le monde peut nous apporter des choses, mais ce que nous amène le monde, que ce soit la joie, que ce soit le contentement, ces choses sont temporaires parce qu'elles sont matérielles. Alors que ce que Dieu nous donne, mes amis, il le met dans notre cœur et rien, absolument rien, ne peut nous le voler, si ce n'est nous-mêmes qui permettons à l'ennemi de voler ces choses dans notre vie. Donc le premier symbole dont j'aimerais parler de l'espoir. Noël, c'est l'espoir. Ésaïe 11, 1 à 10 parle de l'annonce de Jésus-Christ, parle de la prophétie de la venue de Jésus-Christ. Vous savez, je vous ai dit qu'à cette époque, le peuple juif était opprimé par les Romains. Il y avait Hérode, il y avait César, il y avait des petits antéchrists, c'était des images de l'antéchrist qui opprimaient le peuple de Dieu. Et les gens soupiraient après Dieu pour la délivrance. Les gens attendaient la délivrance. Et Dieu merci, Dieu a utilisé des prophètes pour annoncer la venue de Jésus, pour annoncer l'espoir, la délivrance. Jésus est vraiment l'image de l'espoir. Il est notre espoir. Lorsque nous sommes dans des situations désespérées, nous n'avons pas le droit d'abandonner ni de baisser les bras. Parce que Jésus est notre espoir. Et c'est ce qu'il a été pour le peuple juif à l'époque et c'est ce qu'il est encore aujourd'hui pour nous. Luc 1, 26 à 38 parle de cette annonce de la naissance de Jésus-Christ qui vient sauver un peuple opprimé. Mes amis, lorsque vous êtes opprimé, lorsque vous êtes harcelé, lorsque vous êtes fatigué, vous avez besoin d'espoir pour savoir, pour vous dire que vous allez vous en sortir, pour vous dire que demain sera meilleur. Jésus a été l'espoir pour ce peuple qui était injustement opprimé par les Romains, par Hérode, par César. Jésus était l'espoir pour son peuple. Il a été l'espoir selon Luc 1, 26 à 38. Ensuite, Ésaïe 7, 10 à 14. Il est question de la fille qui sera enceinte. En fait, la Bible dit dans ce passage de l'Écriture, en fait, je ne vais pas lire tous les versets dans les détails parce que ça serait beaucoup trop long, mais je fais une petite synthèse. Et ce verset nous dit que Dieu envoie un signe, que ce signe est la jeune fille qui sera enceinte. Et bien sûr, cette jeune fille dont parle Ésaïe, c'est Marie. Et ce signe, nous connaissons tous comment Marie a reçu Christ dans son corps, comment le Saint-Esprit est venu sur elle et comment elle a conçu Jésus-Christ par la puissance du Saint-Esprit. Et mes amis, ça c'est un signe d'espoir. Mais beaucoup ne l'ont pas compris. Vous savez, Joseph, lorsqu'il a appris que Marie était enceinte, la Bible dit que c'était un homme de bien et je crois que Dieu avait vraiment préparé Joseph, le père terrestre de Jésus, à cette situation. Parce que si ça avait été une autre personne, je pense que la situation aurait été différente. Mais Dieu a vu le cœur de Joseph et Dieu a permis à ce qu'il passe par cette situation. Mais vous savez, Dieu est un Dieu de grâce et il a envoyé un ange parler à Joseph pour lui expliquer la situation parce que ce n'était pas possible pour lui de croire que Marie avait été mise enceinte par le Saint-Esprit. Mais c'est ce que Dieu a fait. Dieu a donné de l'espoir au travers de la venue de ce sauveur de Jésus-Christ, au travers de cette jeune fille. Donc Marie était le signe comme quoi Dieu allait envoyer un signe d'espoir. Et j'espère qu'aussi durant cette période de Noël, peut-être que vous faites une pause par rapport à votre travail, par rapport à dans quoi vous êtes investi. Je prie que vous puissiez recevoir l'espoir de la part de Dieu, l'espoir d'un grand changement pour 2022, l'espoir de l'amélioration de votre vie de couple, de votre vie de famille, de votre relation avec vos enfants, l'espoir de pouvoir vous redresser financièrement, de pouvoir entamer cette carrière dont vous rêvez tellement, que vous ayez de l'espoir. Certains ont perdu l'espoir, certains n'ont plus d'espoir parce qu'ils ont baissé les bras. Mais mes amis, en cette période, voyez Jésus-Christ comme l'espoir de votre vie, quel que soit le domaine. Ensuite, le deuxième symbole dont j'aimerais vous parler, c'est la paix. Vous connaissez tous la paix de Noël, on en a entendu parler, et puis on en parle encore, et même le monde parle de la paix de Noël. Mes amis, la paix est quelque chose de tellement important. Dieu seul peut nous donner la paix. Vous savez, la paix de ce monde n'est pas comparable à la paix que l'Esprit de Dieu met en nous. Luc 2, 13 à 14 parle tout simplement de qu'est-ce qu'il est dit dans Luc 2, 13 à 14 ? Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. La paix est venue sur la terre au travers de Jésus-Christ. La paix est venue au travers de Jésus-Christ. Premièrement, la paix dans nos cœurs, la paix dans nos situations. Rappelez-vous que Jésus-Christ est celui qui a calmé la tempête. Oh, il n'a pas fait avec son doigt, il n'a pas fait des rouleaux avec la tempête, il n'a pas fait en sorte à ce que la tempête soit plus forte, mais il a amené la paix. Et Christ saura encore et encore amener la paix dans les périodes troublées, dans les tempêtes de notre vie. Matthieu 2, 1 à 2 parle en fait d'Hérode, de sa jalousie. Vous savez qu'Hérode était quelqu'un de très jaloux. Il était dans une insécurité incroyable. Il avait un cœur méchant. Il était jaloux de sa propre femme. Il a fait tuer sa propre femme. Il a fait tuer son fils. Vous savez, lorsqu'Hérode est mort, il est mort d'une maladie. Il a été rongé par les vers. Eh bien, il a fait tuer le jour de sa mort, juste avant qu'il décède, un groupe de juifs. Et les familles de ces juifs qui avaient été tués ont commencé à pleurer et à crier. Hérode a fait ça pour faire croire au peuple que ces juifs le pleuraient lui, alors que ces personnes se lamentaient de la mort de leur bien-aimé. Ça, c'était Hérode. C'était cet homme insensible qui a fait massacrer des enfants parce qu'il s'est senti dans l'insécurité face à la venue du Seigneur Jésus. Vous savez, à cette époque, la misère humaine était aussi remarquable que l'éclat de l'Empire romain. Les Romains aussi oppressaient le peuple de Dieu. Et Hérode, mes amis, était tout sauf la paix. Il tourmentait les gens, même les gens de sa propre maison. Donc je peux comprendre que le peuple d'Israël attendait la paix dans le cœur. Peut-être qu'ils étaient sans arrêt sur le qui-vive, en train d'avoir peur lorsqu'ils croisaient un Romain, lorsqu'ils entendaient le mot Hérode. Peut-être que le peuple de Dieu tremblait, n'avait pas la paix, n'était pas dans la sécurité. Mais vous savez, Jésus est venu tel un bébé dans une crèche pour amener cette paix qui a un grand prix. Vous savez que César Auguste, à l'époque, pensait emmener une forme de paix, une paix politique entre différents partis. Mais vous savez, le fils de Marie, Jésus-Christ, lui seul, est capable de nous donner une paix profonde dans nos cœurs. Ensuite, Ésaïe 9, 6 déclare « Un enfant nous est né, un fils nous est donné, le gouvernement sera sur ses épaules, etc. » Et à la fin du verset, il est dit « Il est le prince de paix ». Vous savez, le mot « prince », c'est un titre politique. Alors que César Auguste pensait amener une forme de paix politique, Jésus amène une paix politique aussi, mais une paix dans nos cœurs, une paix dans nos vies. La Bible dit qu'il est le prince de la paix. Il n'est pas le prince du trouble, il n'est pas le prince du tourment, mais il est le prince de la paix. Et je sais que Christ saura mettre cette paix dans nos cœurs. Et peut-être que vous avez besoin de paix, peut-être que vous languissez après la paix par rapport à certaines situations par lesquelles vous passez. Demandez la paix au Seigneur. Dites, Seigneur, pendant cette période où je célèbre ta venue dans le monde, je te demande de remplir mon cœur de paix. Parce que parfois, nous sommes là à fêter Noël, mais il y a certaines situations qui nous tourmentent, certaines situations auxquelles nous pensons. Nous n'arrivons pas à nous en éloigner. Christ, n'oubliez pas, est le prince de paix. Et il sera capable de mettre la paix dans notre cœur. Le troisième symbole de Noël dont j'aimerais parler, c'est la joie, mes amis. La joie est quelque chose d'important. La Bible dit que la joie du Seigneur est notre force. Si nous n'avons plus de joie, nous n'avons plus de force. Luc 1, 48, il est question de Marie qui exalte le Seigneur et qui se dit heureuse parmi toutes les générations parce que Dieu a mis son regard sur la bassesse de sa servante. Marie était heureuse à l'annonce de la naissance de Jésus-Christ, à l'annonce de ce que Dieu l'avait choisi, elle, pour porter le Sauveur du monde. Imaginez que lorsque vous recevez Jésus-Christ, tous nous avons expérimenté une incroyable joie, la joie dans notre cœur, la paix. Donc j'imagine ce qu'a pu expérimenter Marie, elle qui portait le Sauveur en elle, qui avait conçu Jésus-Christ par l'Esprit de Dieu. Je comprends sa prière de Luc 1, 48, où Marie exalte le Seigneur et se dit heureuse. Donc Marie a manifesté de la joie. Ensuite, Luc 2, 8 à 20, l'ange annonce au berger la naissance d'un sauveur. Et la Bible dit, à la fin de ce verset, que les anges repartirent glorifiant et louant Dieu. Et je crois qu'ils étaient dans la joie, parce que ces bergers, mes amis, étaient un peu, faisaient partie du peuple juif, et ils attendaient la délivrance. Et les anges se sont adressés aux bergers. C'est étonnant, ils n'ont pas été voir un roi, ils n'ont pas été voir un sacrificateur, ni un prêtre. Mais ils se sont adressés à des gens simples. Vous savez que Jésus est aussi notre grand berger. Tous ces petits symboles sont des symboles prophétiques, qui nous montrent véritablement l'amour que Dieu nous donne en nous donnant un bon berger. Et les bergers se sont réjouis. Ils étaient dans la joie. Ils ont vu un ange qui leur a annoncé une bonne nouvelle. Et ils ont glorifié Dieu, mes amis. Vous savez, la joie que Dieu nous donne, elle est véritablement pour le glorifier. Il ne faut pas confondre la joie avec la moquerie, la joie et la rigolade. Vous savez, la joie, elle part de l'intérieur. La joie, ce n'est pas une jolie voiture, une jolie maison ou un joli sac à main de luxe qui va nous apporter la joie. Mais cette joie, elle naît par l'Esprit de Dieu qu'il met en nous, mes amis. Ensuite, psaume 51, 14. David a prié: rends-moi la joie de mon salut. Mes amis, il y a une joie à être sauvé, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Lorsque nous recevons Jésus-Christ dans notre cœur, il y a cette joie que Jésus met en nous. Mais parfois, l'usure de la vie, les problèmes, les circonstances nous volent la joie. Et lorsque David a péché, David était un homme de Dieu, il était un adorateur. Mais lorsqu'il a péché, il a perdu quelque chose, il a perdu la joie du Seigneur. Vous savez, l'ennemi veut nous faire tomber, il veut intégrer des choses mauvaises dans notre vie afin que nous perdions la joie. Si nous perdons la joie, mes amis, nous tombons en dépression. Si nous sommes en dépression, mes amis, nous ouvrons des portes. Christ ne veut pas que nous perdions cette joie. David a prié: rends-moi la joie de mon salut. Et je prie que Dieu nous rende cette joie. Parfois, nous oublions que nous sommes sauvés, que c'est déjà, si c'était la seule chose que Christ avait fait pour nous, c'est déjà une grande raison de se réjouir. Donc, mes amis, réjouissons-nous. Moi, je me réjouis tous les jours de mon salut. Je remercie le Seigneur de m'avoir sauvé. Je remercie le Seigneur de m'avoir sorti de la boue du péché. Je remercie le Seigneur de m'avoir trouvé et de m'avoir gardé pour le jour du salut. Et nous devons, mes amis, apprendre à remercier Dieu, à lui dire merci, Seigneur, pour la joie de mon salut, parce que je suis sauvé. J'ai été scellé par le Saint-Esprit et je t'appartiens. Ensuite, le quatrième et dernier symbole de Noël, mes amis, c'est l'amour. Jean 3,16 déclare que Dieu nous a tellement aimé qu'il a donné ce qu'il avait de meilleur. En fait, la Bible dit que Dieu s'est fait chair au travers de Jésus-Christ. Jésus est l'empreinte du Père. Si vous avez vu Christ, vous avez vu Dieu. Dieu lui-même est venu vers nous parce qu'il nous a aimés, pour nous éviter d'aller dans un lieu de perdition, mais aussi pour nous donner cette vie abondante qu'il nous a promis sur terre. Jean 3,16. C'est un verset que l'on cite beaucoup si on veut partager l'évangile, parce que c'est vrai que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. La Bible ne dit pas que Dieu a pris, mais qu'il a donné. Beaucoup accusent Dieu de leur avoir pris leur enfant, de leur avoir pris leur travail, de leur avoir donné de la maladie, de leur avoir pris leur santé. Mais sachez que Dieu ne prend pas, Dieu donne. Et si parfois Dieu nous demande de donner à nous, de semer, c'est pour nous donner davantage. 1 Jean 4,9 déclare: l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils dans le monde. Dieu est un Dieu d'amour. Et si Dieu nous a aimés pour nous donner le meilleur, mes amis, nous devons apprendre à nous aimer les uns les autres. Maintenant, je comprends que l'amour que nous pouvons manifester les uns envers les autres n'est pas le même pour tous. Certains, nous les aimons de façon affectif, d'autres de façon plus profonde, d'autres de façon plus personnelle. Mais de quoi qu'il en soit, quel que soit le niveau d'amour, que ce soit agapéo, que ce soit philéo, ou quel que soit, j'avais déjà enseigné là-dessus, nous devons apprendre à manifester l'amour. Vous savez, Noël, c'est donner, mais Noël, c'est aussi pardonner. Peut-être que vous n'avez pas envie d'aimer une personne qui vous a fait du mal. Vous n'avez pas envie de parler de cette personne, ni de parler à cette personne. Mais vous savez, Dieu vous demande de le faire, parce que vous, lorsque nous étions en inimitié contre Dieu, lorsque nous péchions contre lui, même parfois en étant chrétien et en allant à l'église, lorsque nous faisions mal au cœur de Dieu, Dieu nous a aimés. Donc nous devons apprendre à aimer ceux et celles qui se sont retournés contre nous. Vous savez, les aimer ne veut pas dire les appeler tous les 5 minutes, harmoniser à tout prix, mais ça veut dire tout simplement être prêt à les aider, parler en bien d'eux, les fortifier, les encourager, ou peut-être à distance, ne pas leur faire de mal, mais vraiment libérer votre cœur, purifier votre cœur de toute amertume. Parce que Noël est une période d'amour. Romains 5, 8 déclare « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Mes amis, alors que nous ne connaissions pas Dieu, que nous étions contre lui, peut-être dans la sorcellerie, dans l'occultisme, dans la prostitution, dans la drogue et j'en passe, Christ nous a aimés. C'est pour cela que nous ne devons pas regarder les gens qui sont loin de Christ comme des pécheurs pourris. Nous devons demander à Dieu la compassion. Et parce que si Dieu et Jésus est mort pour eux et que Dieu les aime, nous devons aussi les voir avec le regard de Dieu. Nous devons essayer de voir nos ennemis avec le regard de Dieu. Si nous n'avons pas envie de leur parler, ce sont des choses qui peuvent arriver. Mais nous devons demander à Dieu de changer notre cœur, de nous purifier. Parce que Noël est aussi le symbole de l'amour, c'est le symbole du pardon. Premièrement, c'est le symbole durant lequel Dieu nous a donné son Fils, il nous a donné le meilleur. Mais c'est le symbole durant lequel nous devons faire une révision de notre cœur, afin de voir si l'amour de Dieu, l'amour de 1 Corinthiens 13, y est présent. Donc j'aimerais vous rappeler ces quatre symboles de Noël qui sont très importants. L'espoir, la paix, la joie et l'amour. Et ces quatre symboles, mes amis, ils viennent de Dieu. Vous savez, le monde peut vous donner une forme d'espoir. La paix, le monde peut vous donner une forme de paix. Il peut vous donner une forme de joie et une forme d'amour. Mais vous savez, ce sont des choses qui s'effilochent dans le temps, qui ne pèsent pas lourd dans la balance. Tandis que lorsque l'Esprit de Dieu dépose en vous l'espoir, la paix, la joie et l'amour, mes amis, vous avez une assurance éternelle et vous avez une bonne raison de vous réjouir. Donc je vous souhaite un très 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 joyeux Noël. Je vous souhaite d'être en famille, d'avoir des moments de paix, de joie, de rigolade, des moments de réconciliation, de jeter derrière vous la rancœur, l'amertume, de ne pas vous laisser submerger par la tristesse, la solitude, que si vous êtes seul, je prie que Dieu vous envoie des gens, que quelqu'un vous invite peut-être à la dernière minute, ou certains sont seuls parce qu'ils aiment être seuls, ils ne sont pas inquiétés ni dérangés par la solitude, parce qu'ils aiment avoir leur petite vie tranquille. Et bien que Dieu vous bénisse, que l'Esprit de Dieu en cette période se dépose sur nos cœurs. Véritablement, que nous ayons de la reconnaissance pour tout ce que Dieu a fait cette année, même les moments difficiles. Nous disons merci Seigneur malgré ces moments, parce que Dieu, tu nous as toujours enseigné quelque chose dans les temps difficiles et tu nous as toujours gardés. Donc je vous souhaite un très joyeux Noël, je vous retrouverai la semaine prochaine pour un dernier podcast 2021 et pour peut-être faire une révision des choses qui se sont produites cette année et de celles qui vont se produire en 2022. J'espère que vous allez avoir un bon repas et de beaux cadeaux. N'oubliez pas que notre plus beau cadeau, c'est Jésus-Christ. À très bientôt. Amen.